إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر المؤمنين أن يتم العهود التي بينه وبينهم والعهود التي بينهم وبين الخلق والتي لا تخالف شرعه يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات التي تدل على الوفاء بجميع العهود ولا سيما العهود التي تكون بين العبد وبين الله وتشتمل أيضا على كل عهد وعقد واتفاق يكون بين الناس بشرط أن لا يكون هذا العقد محرما فإن كان العقد محرما فإن النصوص الشرعية تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط رواه البخاري ومسلم يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما تقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من الالتزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما وعقود التبرعات كالهبة ونحوها بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها عباد الله ومما يدخل في الوفاء بالعهود العهود والتحالفات التي كانت في الجاهلية ويتعاقدونها فيما بينهم على نصرة المظلوم ومؤازرته وأخذهم الحق له ممن ظلموه وبغوا عليه وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، رواه مسلم. العهود، ثانيا العهود التي أخذها الله على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحل لهم وحرم عليهم، وهي المعنية بقوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويدخل فيها أوامر الله كالأمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام والنذور ونحوها. ثالثا العقود التي يتعاقدها الناس فيما بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقدة اليمين والعهد الذي يأخذه الشخص على نفسه والبيع والشراء والحلف والنكاح ونحو ذلك من الطلاق والمزارعة والمصالحة والتمليك وغيرها. رابعا العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث فيهم، وهي المعنية بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالعهد المأخوذ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذته الأنبياء على أممهم. خامسا الوفاء بالعهود والمواثيق للمستأمنين من الكفار وأهل الذمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. فشريعة الإسلام تأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق، وليس من دين الإسلام ولا من خصال أهله إيذاء المستأمنين والمعاهدين من الكفار بأي صورة كانت. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقد العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. ومن الآيات الواردة في الحث على الوفاء بالعهود والمواثيق والتحذير من نقضها قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن الأحاديث الواردة في الحث على الوفاء بالعهود والمواثيق والتحذير من نقضها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء ينصب لغدرته، أي لخيانته. وفي رواية: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان، رواه مسلم. وفي لفظ: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، رواه مسلم. ومن عقوبات نقض العهود والمواثيق والإخلال بها قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقوله سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. عباد الله، ومن أهم الآداب والأحكام والفوائد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولا في تصدير الآية يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، دلالة على فضيلة الإيمان وأهمية ما يذكر بعد هذا النداء وأنه من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا. ثانيا الإيمان بالله يحمل الناس على الوفاء بالعهود والمواثيق فيما بينهم. ثالثا عدم الوفاء بالعهود والشروط والعقود نقد في الإيمان، لأن صفة الإيمان ملزمة للناس بهذا الوفاء ومستحثة لهم عليه. رابعا وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله وبين العباد. خامسا وجوب الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود بين الناس والمحافظة عليها بشرط أن تكون مشروعة. سادسا الأصل في الأمر في قوله تعالى: أوفوا بالعقود للوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين، لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخرين. سابعا وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطا فالأصل وجوب الوفاء بالشروط، لأن قوله أوفوا بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه. ثامنا وجوب الوفاء بشروط عقد النكاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري. تاسعا يستفاد من قوله أوفوا بالعقود أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة. وجه ذلك أن الله جل وعلا أطلق العقد، فكل ما كان عقدا بين الناس فهو عقد. وتاسعا وعاشرا الجهل بأحكام الشريعة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقض العهود واستحلال الدماء المعصومة وإبطال عهد الحكام بعد تكفيرهم، ومن ثم استحلال دماء المعاهدين والمستأمنين. 11 النهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. 12 العقوبة في الدنيا والآخرة لمن نقض العهود والمواثيق وأخل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteurs d'Allah, beaucoup d'entre les musulmans à notre époque ont une mauvaise compréhension de la réalité de l'islam. Et une des raisons pourquoi, eh bien, c'est aussi à cause des fausses idéologies qui sont propagées dans le monde actuel. Et ces idéologies-là sont en grande partie venues de la part des ennemis de l'islam. Sauf que beaucoup d'entre les musulmans ont été influencés par ces idéologies-là. Et aussi à cause du fait que beaucoup d'entre les musulmans se sont éloignés de l'application de l'islam dans son entièreté. Parce que Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, « Ya ayyuhal ladhina amanu, udkhulu fis silmi kaffa. » Oh, les croyants, entrez dans l'islam en entier, dans tout ce que ça implique, dans tout ce qui est enseigné de la religion. Sauf que on voit qu'à notre époque, beaucoup de musulmans ont pris une partie de la religion et ils ont laissé l'autre. Ils ont pris une partie du Coran et ils ont laissé l'autre. Ils ont pris une partie de la Sunna et ils ont laissé l'autre. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous allez croire en une partie du livre et vous allez renier l'autre? Donc, en tant que croyant musulman, chaque musulman a la responsabilité de croire en ce que Allah a révélé dans le Coran et ce qu'il a révélé à son messager dans la Sunna et de le mettre en pratique. Et de ne pas choisir dans ce qui a été révélé ce qu'il veut de ce qu'il ne veut pas. S'il est un vrai mu'min, il doit accepter tout. Et en même temps, il ne doit pas faire de distinction entre la religion et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours dans la dunya. Ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, ça n'existe pas en islam. Puisque dans le Coran et dans la Sunna, on retrouve des règles qui ne se limitent pas uniquement à la croyance, à la foi ou à la pratique religieuse. Il y a également dans les règles de l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, des règles qui ont affaire avec toutes les affaires de la vie. Et tous les moindres détails de la vie du croyant sont gérés par la révélation. Que ce soit les questions qui ont rapport avec la prière, le jeûne, le hajj, la foi en Allah Azza wa Jal, le tawhid, l'interdiction du shirk, ça c'est les piliers de l'islam, on les connaît. Mais tout ce qui a rapport également avec les interactions entre les hommes. Par exemple, les ententes de commerce, les ententes politiques, les ententes économiques, les ententes sociales, les liens du mariage, les règles du divorce, les règles de l'héritage, tous ces principes-là, qu'est-ce qui a rapport aussi avec le jugement, les témoins, et toutes ces règles-là sont enseignées par l'islam et sont régies par l'islam. Et en principe, dans les pays musulmans, c'est supposé d'être comme ça. Les juges sont supposés d'être les savants de la religion. Les tribunaux sont supposés d'être gérés par des gens qui ont étudié la charia d'Allah. Et quand il y a un conflit entre deux personnes, eh bien, ils sont supposés de retourner au jugement de la charia de l'islam pour trancher entre eux dans leurs divergences. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de musulmans qui se plaignent et qui se disputent et qui se déchirent et qui cessent même de se parler et qui commencent même à se détester parce qu'ils ont fait une affaire entre eux, un commerce ou une entente, quelque chose d'économique. Et puis tu vois que quand il y a une divergence entre eux, quand il y a un désaccord entre eux, eh bien, chacun veut prendre une partie, puis partir de son côté, alors qu'avant de commencer leur commerce, ils s'étaient réunis, ils avaient mis des conditions, ils avaient signé un contrat, ils s'étaient mis d'accord sur les conditions. Pourquoi, une fois qu'ils ont commencé leur commerce et que par la suite ils ont eu une divergence d'opinion ou un désaccord, ils oublient tout ce qu'ils ont signé et puis chacun prend ce qu'il pense avoir droit et sans tenir compte de ce qui revient à l'autre et chacun veut tirer la couverture de son côté. Pourquoi une fois qu'on a signé un contrat de mariage avec une personne et qu'on s'est mis d'accord sur des règles et sur des conditions, une fois que le mariage est conclu, eh bien par la suite personne ne veut respecter les conditions de l'autre. Et chacun fait comme si le mariage c'était c'est lui ce qu'il décide, sans tenir compte des règles et des conditions. Pourquoi, par exemple, quand tu décides de t'installer quelque part dans le monde, et quand tu rentres quelque part, tu signes des conditions que tu vas respecter certaines règles et des choses de ce genre. Une fois que tu arrives, après tu commences à dire « Non, je fais ce que je veux. » Les ententes que Allah Azza wa Jalla nous a données et l'entente qu'on a pris avec lui, l'entente de la foi, ça aussi, ça fait partie des engagements qu'on a avec Allah de suivre sa révélation. Ça, c'est un engagement. Il faut le respecter aussi parce que c'est le plus important de tous. Donc, quand on parle d'engagement, ça disons, a un lien avec tous les différents niveaux, tous les différents aspects. Et il n'y a pas des lois ou des règles pour l'islam, et que ça c'est la religion, et des règles et des lois en dehors de la religion pour les interactions entre les hommes, mais on dit non, ça c'est géré par la dunya. Non, tout ce qu'on fait dans notre religion, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est relié aux mêmes règles, et aux mêmes principes, et aux mêmes lois en tant que musulmans. Même si on vit dans des sociétés qui ne sont pas musulmanes, et qui ont des lois qui sont en contradiction avec l'islam, le devoir que chacun d'entre nous, les musulmans, avons, c'est de gérer nos histoires entre nous et nos problèmes entre nous selon les règles de notre croyance, selon les règles de notre foi, selon les règles de notre religion, et d'être honnête, premièrement envers Allah, et envers nous-mêmes, et envers les uns envers les autres. Si on n'est pas honnête envers Allah, c'est sûr qu'on ne pourra pas être honnête avec les autres. Si on n'est pas honnête avec soi-même, c'est sûr qu'on ne pourra pas être honnête avec les autres. Et comment ça quand tu as un conflit avec ton frère, qui est ton frère en islam, et que tu sais qu'il y a un jugement dans le Coran et dans la Sunna à propos de quelque chose, au lieu de revenir à Allah et à son messager, tu t'en vas chez les kuffars pour juger selon leur loi, alors que tu sais que leur loi est en contradiction avec la loi d'Allah. Où est-ce qu'elle est ta foi à ce moment-là? Est-ce que Allah Azza wa Jalla dans le Coran n'a pas dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ? Celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les kafiroun. Peut-être qu'ils jugent ou ils cherchent un jugement de la part des kuffars ou de la part de ce qui contredit à la charia et ils veulent juger par le tarot. Non pas parce qu'ils renient le jugement d'Allah, mais parce qu'il veut juste suivre sa passion et son désir. Il sait qu'il a tort. Et il est d'accord avec le fait que ça c'est haram. Sauf que juste parce qu'il suit ses désirs et sa passion, il va chercher un jugement qui contredit le jugement d'Allah. Ça c'est l'injustice. C'est ça ce qu'on appelle le dhulm. À ce moment-là, le kufr qu'il a fait, c'est un kufr mineur. Ça ne le fait pas sortir de la religion complètement. Mais sauf que ça diminue beaucoup sa foi. Et s'il persiste sur ce comportement-là, ça peut même parfois l'amener à la mécréance, parce que c'est très très dangereux. Toutefois, s'il choisit de juger par une loi qui contredit le Coran et la Sunna, parce qu'il croit que cette loi-là est meilleure que le Coran, ou qu'elle est équivalente au Coran, ah bien ça c'est du kufr majeur. Parce qu'à ce moment-là, il a mis une loi des hommes au-dessus de la loi du Créateur. Hada kufr. Kufrun akbar. Mukhrijun min al-millah, ça fait sortir de la religion. Ou s'il croit que c'est halal de juger par ce qui contredit le Coran et la Sunna. Si tu crois que juger par ce qui contredit le Coran et la Sunna c'est halal, hada kufrun. Parce que ça veut dire que tu rends halal ce qui est haram. Tu rends halal ce qui est haram, ça c'est du kufr. À moins que tu sois ignorant, tu as été élevé dans la brousse, ou dans la campagne, ou dans les montagnes, personne ne t'a appris l'islam. Tu n'as jamais entendu parler de la religion. Tu es un ignorant, ou tu viens de te convertir. Tu ne sais rien. Et tu nies ça. On va dire, lui, il est jahil. Hada jahil, la ya'rif. Nu'allimhu. On va lui enseigner, on va lui apprendre. Parce qu'il ne connaît pas, miskin. Il faut lui enseigner. Mais celui qui a grandi parmi la science et parmi les ulama, et qui a accès aux livres et à la connaissance, et qui a les ulama autour de lui, et qui a tous les moyens d'apprendre et de connaître, mais qui se détourne intentionnellement de la science, parce que ça ne l'intéresse pas, ou bien parce que ça ne compte pas pour lui, est-ce que celui-là a une excuse? son ignorance est volontaire. Et à ce moment-là, il n'a pas d'excuse pour de vrai. Tout ça pour dire que Allah Azzawajal, dans le Coran, il nous ordonne de respecter nos ententes, de respecter nos contrats, de respecter nos engagements, de respecter nos pactes, tout ce qu'on a signé, tout ce qu'on a fait, même des ententes verbales. Ce n'est pas obligatoire que ce soit un contrat signé avec une feuille. Si on était assis ensemble, puis qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose, tu ne peux pas après, par la suite, tu t'es séparé de la personne, tu reviens sur ta parole, et tu nies ce sur quoi tu t'es entendu. Non. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux, le vendeur et l'acheteur, ils ont le choix de continuer dans la transaction ou de cesser, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose, sur le prix et sur la marchandise, et qu'ils se sont séparés, mais après, ils ne peuvent pas revenir commencer à dire « Non, je veux un autre prix, ou je veux telle chose. » Et la même chose pour les ententes de commerce. Quand quelqu'un, par exemple, fait un business avec un autre musulman, les gens se disent « Ah, oh, mais je lui ai fait confiance parce qu'on se connaît bien, on est des amis, on est des frères. » Pas besoin d'écrire, pas besoin de signer, pas besoin de ça. C'est entre nous. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a des conflits? L'autre, il dit « Non, on n'avait pas dit ça. Oui, on avait dit ça. Non, on n'avait pas dit ça. Oui, on avait dit ça. Ah, il y a des témoins. Où sont les témoins? Ah, on ne sait plus où ils sont. » Et on se basait sur l'idée qu'on avait de la personne, que c'est une personne honnête, que c'est un frère, que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et ça a créé parfois des situations où des gens, par la suite, ils étaient des amis, sont devenus des ennemis. Ils se donnaient le salam, maintenant ils se fuient les uns les autres. Ils ne veulent même plus se parler. Et ils se détestent. Pourquoi? À cause de ça. Donc pourquoi on laisse les choses sans faire les choses correctement? Écrivez les contrats, faites les choses correctes, allez chez le notaire même s'il faut. Faites des ententes en bonne et due forme. Respectez les règles, établissez clairement vos conditions. Et lorsque vous mettez des conditions, vérifiez à ce que ces conditions-là soient en accord avec l'islam. Mettez pas des conditions dans vos contrats qui sont des conditions haram, comme des conditions de riba ou des conditions de choses qui sont inconnues ou pas définies. Faites les choses clairement et faites les choses islamiquement. Et vivez selon votre foi, peu importe où vous êtes. Ittaqullah haythuma kuntum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: préservez-vous d'Allah et de son châtiment, où que vous soyez. Que vous soyez au Canada, tu dis, ah, mais on est au Canada, on est en Amérique, on est en Europe, on n'est pas dans des pays islamiques. Peu importe, ça c'est votre faute. Ce n'est pas une excuse, ça ne justifie pas vos péchés. Ce n'est pas une excuse pour continuer et vivre dans le péché, parce que tu as choisi de vivre dans une société qui vit selon des principes qui sont contraires à ta foi et à ta religion. Après, tu utilises ça comme prétexte pour justifier tes péchés. C'est une contradiction. Ça, c'est ce qu'on appelle « udhrun aqbahu min dhanb ». Une excuse plus laide que le péché. Si quelqu'un dit « Moi, je vais aller vivre dans la toilette. » « Akramakum Allah ». Puis après, tu lui dis « Mais pourquoi tu ne pries pas ?» Il dit « Mais ce n'est pas de ma faute, je vis dans la toilette. »« Mais pourquoi tu vis là alors ?»« Va vivre ailleurs. » Est-ce que quelqu'un t'a forcé de vivre à cet endroit qui est sale? Tu peux vivre dans n'importe quel endroit. Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah, elle est vaste. Et il y a plein d'endroits où tu peux vivre et appliquer ta religion sans problème. Pourquoi tu choisis l'endroit explicitement là où tu ne peux pas pratiquer ta religion comme tu veux? Et où les gens veulent te mettre des bâtons dans les roues chaque fois que tu veux suivre ton islam. Et tu dis, mon frère, il ne faut pas prier. Si on prie là, ils vont nous faire des problèmes. Ils vont dire qu'on est des extrémistes. Depuis quand faire la prière, c'est de l'extrémisme? Où est-ce qu'il est votre engagement envers Allah? Et Allah, il a mentionné, et on va terminer avec ça, il a mentionné dans le Coran l'engagement qu'il a pris avec les Juifs et comment ils ont brisé cet engagement et comment Allah les a punis à cause de ça. Il a mentionné aussi l'engagement qu'il a signé avec les chrétiens et comment ils ont contredit ces engagements et comment Allah Azzawajal les a punis à cause de ça. Donc certains musulmans, ils lisent ces versets. Ils disent, ah, ça c'est à propos des Juifs et des chrétiens. Nous, on est corrects. Mais si vous faites la même chose qu'eux, les mêmes châtiments vont tomber sur nous.
Si on fait la même chose que les juifs, la même chose que les chrétiens dans leur égarement, dans leur contradiction des engagements avec Allah, vous pensez que Allah va nous traiter différemment parce qu'on est musulman ou parce qu'on se dit musulman? Eux aussi se disaient musulmans. Eux aussi se disaient soumis à Allah. Eux aussi disaient qu'ils étaient croyants en Allah. Eux aussi disaient qu'ils croyaient en ce que Allah a révélé. Et pourtant, ils ont contredit ce que Allah a ordonné. Ils ont contredit les engagements qu'ils avaient avec leur Créateur. Pourquoi Allah les a punis? Parce qu'ils ont contredit. Si on contredit, nous aussi on va être punis, c'est la même chose. On n'a pas de lien de parenté avec Allah Azza wa Jal. وَقَالُوا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَبِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ. Ils ont dit, on est les fils d'Allah et c'est bien aimé. Pourquoi Allah vous punit alors si vous faites des péchés? Il n'y a pas de lien de parenté entre nous et Allah. Et donc le lien qu'on a et l'engagement qu'on a avec lui, c'est de respecter ses ordres et de suivre sa révélation du mieux qu'on peut. On n'est pas parfait. C'est sûr qu'on est des êtres humains. Allah, il le sait, il nous a créés comme ça. Mais lorsqu'on fait des fautes, de se repentir, de se corriger, de revenir à Allah, demander pardon. Allah, il aime les repentants. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.